Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je ne cesse pas de le répéter. À chaque fois que nous traversons la porte, nous devrions être dans la joie parce que nous sommes dans le sanctuaire. Et ce matin, je suis très, très heureux d'être là, de pouvoir partager cette parole qui est la puissance de Dieu avec vous. Et ce matin, je vais reprêcher un message que j'ai déjà prêché et que ça me tient à cœur parce que relisant le passage ce matin, j'ai vu qu'il y a des choses que je n'avais pas relevées. Et ce matin, j'ai envie vraiment de partager ce message qui me tient à cœur. Et aussi, je pense que dans ce message, Dieu va nous parler. Parce que c'est un message qui est riche en enseignement. C'est, comme vous pouvez le remarquer, ce matin, Jean-Claude n'est pas là, Pierre n'est pas là. Alors du coup, je fais le service. Bon, pour... le message pour la lecture ce matin de notre message, je vous invite à ouvrir avec moi vos Bibles dans 1 Roi chapitre 17, l'Ancien Testament, 1 Roi chapitre 17. Nous allons lire le verset 8 jusqu'au verset 17. 1 Roi chapitre 17, verset 8 à 17. Alors la parole lui parvint: va à Sarepta qui appartient à Sidon et restez-y là-bas. J'ai ordonné à une veuve de pourvoir à tes besoins. Il s'en alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville. Il y avait là une veuve qui ramassait du bois. Il appela et lui dit: va me chercher un peu d'eau dans un récipient, je te prie, pour que je boive. Elle alla en chercher. Il appela de nouveau et lui dit: va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit: par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je ramasse deux morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: n'aie pas peur, rentre, fais comme tu l'avais dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela une petite galette et tu me la porteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël: le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où le Seigneur enverra la pluie sur la terre. Elle alla faire selon la parole d'Élie et pendant des jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se vida pas selon la parole du Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après cela, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Amen. Qu'il ne resta plus en lui de respiration. La respiration, c'est important, la respiration, n'est-ce pas? Sans la respiration, nous ne pouvons pas vivre. Avant de continuer, avant de commencer ce message, mais dans ce livre, les rois, ils nous parlent de quelqu'un, une personne qui est très, très importante, dont souvent on ne parle pas dans l'Église. Il s'agit du prophète Élie, cet homme que Dieu a choisi, cet homme que Dieu a appelé. Il lui a confié, je dirais, un travail très, très important. Comme nous le voyons dans le Nouveau Testament, Dieu, il a choisi pas mal d'hommes. Il a appelé pas mal d'hommes. Nous avons comme exemple ses disciples. Nous avons comme exemple l'apôtre Paul. Mais aussi, dans le Nouveau Testament, Dieu a appelé pas mal de personnes, pas mal d'hommes, pour annoncer sa parole, à savoir la bonne nouvelle. Et ce matin, dans ce livre, dans le chapitre 17 même, il nous parle d'Élie, cet homme que Dieu a choisi, cet homme que Dieu a appelé. Quand Dieu a appelé Élie, le peuple Israël était dans une condition déplorable. Le peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi, le peuple Israël était plongé dans l'idolâtrie, dans la désobéissance. Et Dieu, dans son amour, a appelé Élie comme prophète pour aller annoncer sa parole au milieu de ce peuple qui a rebellé contre son Dieu. Mais cet homme, Élie, c'est un homme que Dieu a donné une grande puissance, à tel point que même dans le Nouveau Testament, il y a pas mal de disciples qui ont fait mention d'Élie, à savoir Jean-Baptiste, parce qu'il disait que Jean-Baptiste, il parlait, il avait la puissance d'Élie. Parce que Jean-Baptiste qui était venu avant pour préparer le chemin de Christ, et tout en annonçant la parole de Christ à préparer le chemin, il avait une puissance qui était tellement forte. On dit que Jean-Baptiste avait la puissance d'Élie. C'est juste pour vous dire que Élie, c'était un homme de Dieu, un homme que Dieu avait donné beaucoup de pouvoir pour annoncer sa parole. Mais aussi, il y a pas mal de choses que nous ignorons d'Élie. Parce que, comme je le disais en préambule, c'est quelqu'un qu'on ne parle pas souvent à l'église. On ne parle pas d'Élie à l'église. On ne parle pas de sa famille. On ne parle pas de l'appel qu'il a reçu, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date, à quel moment qu'il avait reçu de l'appel de Dieu. Mais le plus important pour nous ce matin, c'est qu'on le sait que Dieu l'avait choisi pour annoncer sa parole au milieu de son peuple qui s'est rebellé. C'est ça le plus important. Dans toutes les circonstances, à n'importe quel moment, notre Dieu, il peut toujours choisir qui il veut pour annoncer sa parole au milieu de son peuple. Il peut choisir vous, il peut choisir moi, il peut choisir n'importe qui pour annoncer sa parole. L'essentiel, c'est que sa parole doit être annoncée. Cet homme, Élie, a reçu l'onction divine pour annoncer sa parole au milieu de son peuple, au milieu du peuple Israël. Ce peuple qui s'est rebellé contre le Dieu Tout-Puissant. Mes amis, comme nous le voyons dans le verset 8, c'est que cet homme a reçu la parole du Seigneur, cette parole qui est si forte, qui est si puissante. Cette parole, on dirait que Élie a reçu une convocation. Il est convoqué devant la face de Dieu et il a reçu cet ordre, à savoir, vas-y, va annoncer la parole au milieu de mon peuple. Mes amis, aujourd'hui dans le monde, il y a encore des pays où les gens continuent à adorer les idoles, où les gens continuent à servir les images taillées, où les gens continuent à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ce matin, vous et moi, nous avons cette obligation d'aller annoncer la parole du Seigneur. Comme Élie, le prophète Élie, il était chargé par notre Dieu d'aller annoncer sa parole, vous et moi aussi, nous avons cette obligation d'aller annoncer la parole du Seigneur dans ce monde perdu. Mais aussi, j'ai envie de vous dire que malgré toute cette tribulation qu'il y a actuellement dans le monde, les choses ne sont pas si mal que ça. Les choses ne sont pas si mal que ça. Malgré la douleur, malgré la tristesse, la maladie, les attentats. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire de prendre courage, parce que vous n'êtes pas seul au milieu de ce monde. Nous ne sommes pas seuls parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas seuls parce que nous avons notre Dieu tous les jours à nos côtés par son Esprit Saint qu'il a mis en nous. Et ce matin, Élie, étant appelé de Dieu, va nous donner l'exemple parfait d'un homme que Dieu a choisi pour annoncer sa parole. Et nous verrons aussi à travers la vie d'Élie, Dieu peut transformer notre vie. Dieu peut nous enseigner. Dieu peut nous amener avec toutes les âmes nécessaires pour pouvoir aller dans le monde annoncer sa parole. Mes amis, le prophète Élie a reçu cette mission. C'était une mission difficile, dans le sens que Élie va laisser chez lui pour aller dans des pays où normalement il n'avait pas le droit d'aller. Il va laisser chez lui, il va laisser tous ses biens, il va laisser sa famille, il va laisser ses richesses pour aller dans des endroits où il ne devrait pas aller. Il va se trouver très très loin, il va se trouver dans le torrent de Kérit, il va se trouver en terre ennemie. Mais tout cela, c'est selon la volonté de son Dieu. Mes amis, quand Dieu nous appelle, nous devons lui obéir. Parce que nous sommes ses enfants. Comme je le disais, exactement dans l'épître de Jacques, il est dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il avait la même nature que nous, il avait la même passion que nous. Mais Dieu l'a choisi pour annoncer sa parole. Dieu a choisi Élie comme ambassadeur. Mais ce matin, nous serions aussi tentés de croire que Élie était un homme, un géant, était un homme très, très musclé, un homme, un grand. Mais j'ai envie de vous dire ce matin, devant Dieu, on n'a pas besoin d'être un géant ou un homme très musclé pour aller annoncer sa parole dans le monde. Parce que malgré les dangers qu'on court tous les jours dans le monde, nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu, il est là. Il nous accompagne et il nous protège. C'est ce que nous devrions savoir ce matin. Malgré les difficultés, nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu va appeler Élie. Il va envoyer Élie à Trichide de Galaad, cet endroit où Dieu va l'envoyer pour annoncer sa parole. Mais aussi, avant tout, le nom d'Élie veut dire « Dieu est ma force ». Le nom Élie veut dire « Dieu est ma force ». Dieu a choisi Élie. Je dirais même que Élie a été choisi dès le sein maternel. Parce que le nom qu'il porte veut dire « Dieu est ma force ». Ce n'est pas n'importe quel nom. C'est vrai. Je dis que Dieu a choisi Élie dans le sein maternel. C'est parce que Dieu l'a façonné. Dieu façonnait Élie en vue du jour où il allait l'envoyer au milieu de ce peuple, le peuple d'Israël, ce peuple rebelle, pour annoncer sa parole. J'ai envie de vous dire que ce matin, l'expérience qu'Élie va vivre va être en même temps très riche et terrible aussi. Ça va être riche et terrible en même temps. C'est vrai, nous avons comme exemple Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert. Nous avons pas mal de gens qui ont beaucoup galéré. Mais tous ces temps que Moïse et d'autres ont passé, ces galères, ces temps-là ne sont pas des temps perdus. Ils ont passé ces temps à galérer parce que Dieu le veut, parce que Dieu voulait les préparer. Et ce qui nous arrive souvent dans la vie, nous sommes passés par des difficultés, par des épreuves, les vicissitudes, les choses, je dirais, insupportables pour nous, étant qu'êtres humains. Mais sachez-le que, au milieu de toutes ces épreuves, au travers de toutes ces difficultés, nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu est là. Il est en train de nous préparer. Il est en train de nous façonner. Parce que notre Dieu a un plan pour chacun de nous. Nous faisons tous partie du plan de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui nous aime au point où il a donné son Fils Jésus-Christ à notre place. Et ce matin, si vous êtes là, c'est parce que vous avez reçu le message. C'est parce que vous avez entendu parler de ce Jésus qui a tout le pouvoir. Et c'est pour cette raison que vous êtes là ce matin. C'est pour cette raison que je suis là ce matin. Oui, je disais en préambule que nous devrions être toujours dans la joie à chaque fois que nous traversons la porte. Parce que nous sommes venir dans la présence du Seigneur, assemblés entre frères et sœurs, pour écouter sa parole, pour chanter en l'honneur de son nom. C'est une grâce, parce que ce matin, il y en a beaucoup qui aimeraient bien être à notre place. Mais Dieu fait les choses comme il veut. Oui, cet homme, Élie, son histoire va être une histoire triste, mais aussi une histoire joyeuse. Parce que cet homme va être nourri par trois fois de façon surnaturelle. Il va être nourri trois fois de façon surnaturelle. La première fois, Élie va être nourri par les corbeaux. Une deuxième fois, par la veuve de Sarepta. Et une troisième fois, il va être nourri par les anges. Vous voyez cet homme que Dieu a appelé. Dieu a façonné Élie pour sa parole, pour son travail. Cet homme qui va tout abandonner pour suivre son Dieu va vivre une expérience extraordinaire. Et fort souvent aussi, ce qui nous arrive dans la vie, quand Dieu nous appelle, nous sommes obligés à abandonner tous les plaisirs de ce monde. Quand Dieu nous appelle, nous sommes obligés de fuir tous les plaisirs de ce monde. Et ce matin, si vous n'avez pas encore pris cette décision de suivre Jésus-Christ, je vous invite à le faire. Comme Élie, il s'était abandonné à son Dieu, et ce matin aussi, nous devons nous abandonner à notre Dieu. Dieu nous appelle ce matin. Il nous appelle. Il a un projet pour chacun de nous. Mais ce matin, la question que j'ai envie de vous poser, est-ce que vous voulez faire partie du projet de Dieu, du plan de Dieu? Parce que notre Dieu, il n'est pas un dictateur, il ne veut pas nous forcer. Il ne veut pas nous forcer. Il nous propose. Mais ce matin, est-ce qu'on veut vraiment accepter l'offre de Dieu? Élie a été choisi par notre Dieu pour annoncer sa parole au milieu de son peuple, au milieu du peuple d'Israël qui s'est rebellé contre son Dieu. Ce peuple qui était infidèle, ce peuple qui était arrogant. Malgré tout ce que Dieu a fait pour son peuple, ce peuple s'est tourné contre son Dieu. Souvent, c'est ce qui nous arrive dans la vie. Malgré tout ce que Dieu a fait pour nous, mais nous ne sommes pas satisfaits. On veut toujours avoir plus. Mais ce matin, j'ai envie de vous dire que nous devons apprendre à nous contenter de ce que Dieu nous donne. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aspirer aux choses les meilleures. Ça ne veut pas dire ça. Mais nous devons nous contenter de ce que Dieu nous donne. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. On ne peut pas traverser la route en un seul pas. On doit faire plusieurs pas. Il faut aller doucement. Tout en sachant que notre Dieu, il est à notre côté. Il va nous emmener. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. On doit être fidèle et patient dans lui. Élie va être nourri par trois fois de façon naturelle. Il va être nourri par les corbeaux. Il va être nourri par la veuve de Sarepta. Et il va être nourri par les anges. Quel privilège, nourri par des corbeaux, nourri par les anges. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre cette expérience, à savoir se faire nourrir par les corbeaux, par un étranger d'une grande gentillesse, par les anges? Mais ce que j'ai envie de vous faire comprendre ce matin, c'est que notre Dieu a le contrôle de toutes les sphères de notre vie. À chaque fois que nous acceptons de confier notre Dieu, de confier notre vie à notre Dieu, il a tout le pouvoir de nous protéger, de nous amener là où il veut. Ce n'est pas toujours facile. Vous et moi, nous avons à peu près les mêmes faiblesses. Nous affrontons tous les jours à peu près les mêmes difficultés. Mais ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que notre Dieu, il nous a fait la promesse, à savoir qu'il sera toujours avec nous. Quand nous savons que notre Dieu, il est à notre côté, il est toujours là avec nous, nous pouvons résister. Les choses ne sont pas faciles tous les jours, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons marcher de victoire en victoire. Dieu a choisi Élie pour annoncer sa parole à son peuple, pour rappeler, je dirais un rappel, ce peuple qui s'est tourné contre son Dieu. Dieu a choisi cet homme pour à nouveau annoncer sa parole au milieu de ce peuple. Mais Élie, j'aimerais bien vous poser cette question. Est-ce que Élie ne pouvait pas refuser l'offre de Dieu? Est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de refuser cette offre? Parce que Élie, il était comme nous. Il avait toutes les passions comme nous. Il était un homme comme nous. J'ai envie de vous dire que Élie avait la possibilité de refuser l'offre de Dieu. Mais Dieu a choisi Élie dès le sein maternel. Il a préparé à son service. C'est le cas de beaucoup d'entre nous ce matin. Dieu nous a choisis à l'avance. Il nous a préparés pour être là ce matin. Là où nous sommes ce matin, ce n'est pas le fruit du hasard. Nous sommes là ce matin parce que Dieu le veut, parce que Dieu nous a choisis. C'est la même chose pour Élie. Ce que je veux dire par là, c'est que à travers l'histoire de Élie, à travers ce récit, Dieu nous réapprend cette affirmation de Romains 8, verset 28. Il dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toutes choses, les choses inférieures comme les choses supérieures. Les choses inférieures comme les corbeaux, parce que les corbeaux, ce sont des oiseaux impurs. Les choses égales comme la veuve de Sarepta, parce que c'était une personne comme Élie. Et les choses supérieures comme les anges. Dieu peut nous nourrir par tous les moyens. Mais l'essentiel, c'est que nous devons nous laisser guider par son amour. La grâce de Dieu est pour nous tous. Nous avons la possibilité de profiter de cette grâce que Dieu nous offre chaque jour. Élie a été nourri par trois moyens surnaturels. Mais aussi, dans le ministère d'Élie, il y a trois choses qui sont très, très importantes. C'est que il y a au début de son ministère, que je vais appeler le « va, cache-toi », son ministère qui va être un ministère dans l'ombre. Un ministère dans l'ombre. Élie va être dans l'ombre. Il ne va pas être quelqu'un de connu. Et c'est là que son ministère va commencer. Deuxièmement, je vais dire que c'est le torrent de Kérit. Et troisièmement, c'est sa rencontre avec la veuve de Sarepta. Le va, cache-toi, c'est aussi l'aspect de notre vie privée. C'est l'aspect de votre vie privée, de ma vie privée. C'est la relation personnelle que j'ai avec mon Dieu. C'est la relation personnelle que vous avez avec votre Dieu. Ça, c'est le ministère caché. C'est le va, cache-toi. C'est là le ministère est commencé. Et Élie, la vie d'Élie avait, je dirais, ces trois aspects, à savoir, va, cache-toi, vas-y au torrent de Kérit et aussi va à la rencontre de la veuve de Sarepta. Le va, cache-toi, c'est aussi l'aspect dans notre vie. Notre vie n'a rien de spectaculaire, où personne ne s'intéresse à nous. C'est l'aspect où, c'est le côté où tous les jours, on vient à l'église, mais personne ne voit rien en nous. On vient à l'église, on prie notre Dieu, on est là. Mais personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Quelle est notre relation avec notre Dieu? C'est ça le ministère caché. C'est ça la première phase, ça devrait être la première phase de notre vie de chrétien. C'est notre relation. Lorsque nous sommes venus à Christ, nous devons avoir cette relation cachée, cette relation personnelle avec notre Dieu. Et le ministère d'Élie, c'était ça. Il a commencé. C'était un ministère caché. C'est aussi dans Actes des Apôtres, si c'est ce que l'apôtre Paul va nous relater, Actes des Apôtres, le chapitre 6, parce que arrivé à un moment que la parole commençait à se faire chair, l'église commençait à grandir. Alors, l'apôtre Paul devrait choisir des hommes pour continuer à annoncer la parole du Seigneur parce qu'il ne pouvait pas être partout en même temps. Il y avait un problème à l'église. Du coup, l'apôtre Paul, il avait demandé de choisir 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse. Il dit, nous les chargerons de cela. Quant à nous, nous nous consacrons assidûment à la prière et au service de la parole. C'est ce qui arrive souvent dans l'église, c'est ce qui arrive souvent dans nos assemblées, ce qui doit arriver normalement dans nos assemblées. Le pasteur, il ne peut pas tout faire. L'évangéliste, il ne peut pas tout faire. Il doit faire appel à des frères et sœurs dans l'assemblée pour confier des tâches qui sont importantes. Pas forcément les tâches parce qu'il n'y a pas de petites tâches à l'église. Mais toutes les tâches sont importantes à l'église. C'est ce que l'apôtre Paul va conseiller à ses disciples. Il va les conseiller de choisir 7 personnes. 7 personnes de qui on donne un bon témoignage. C'est aussi ce côté que j'appelle le « va cache-toi ». C'est aussi le ministère de la parole. Le fait que l'apôtre Paul a demandé de choisir 7 personnes, ces 7 personnes vont être au service de l'Église, au service de la communauté, pour accomplir les tâches que Dieu va les confier. À ce moment-là, ces 7 hommes vont commencer leur ministère public. Parce que dans le premier temps, il a demandé de choisir 7 hommes de qui on rend un bon témoignage. Ce qui veut dire que c'est des hommes qui ont une bonne relation avec Dieu. C'est des hommes qui sont, je dirais, irréprochables. Ces hommes, avant d'arriver à ce niveau vis-à-vis de notre Dieu, on devrait avoir une relation personnelle avec notre Dieu. Sans cette relation personnelle, Dieu ne peut pas nous transformer. C'est ce côté que j'appelle « vacachoir ». Et du moment que l'apôtre Paul va demander à ses disciples de choisir ces 7 personnes, ces 7 personnes qui vont servir à l'église vont commencer les ministères publics. Et ce qui va arriver à Élie, et là Dieu va demander à Élie d'aller au torrent de Kérit. Élie, le prophète Élie, il va servir sa génération. Il va servir sa génération tout en s'appuyant sur son Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il va servir sa génération tout en annonçant la parole de Dieu. Cette parole qui va aider ce peuple à prendre conscience de son état. C'est ce que souvent nous avons besoin. Nous avons besoin d'entendre, d'écouter la parole de notre Dieu pour prendre conscience de notre état. C'est vrai, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais au niveau de notre relation avec Dieu, nous ne sommes pas tous au même niveau. Ce matin, je vous invite vraiment à aller à la rencontre de votre Dieu, de prendre du temps avec lui, d'avoir un culte personnel, parce que c'est là que Dieu va transformer votre vie. J'ai envie même de vous dire ce matin, il n'y a pas de transformation sans une étroite collaboration avec notre Dieu Tout-Puissant. Sans la présence de notre Dieu dans notre vie, on ne peut pas être transformé. Parce que le Dieu Tout-Puissant est le Dieu de la vie, l'alpha et l'oméga. Et aussi, le ministère d'Élie va prendre une autre tournure, à savoir que Élie va se devoir présenter devant Akab pour l'annoncer quelque chose de terrible. Il va annoncer à Akab une chose terrible. Déjà, le va cache-toi où il était dans son ministère, un peu, je dirais, privé. Et là, le Seigneur lui demande d'aller au torrent de Kérich où il va commencer son ministère public. Là, l'Éternel va lui demander d'aller se présenter devant Akab. Il va se présenter devant Akab pour lui annoncer une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle, à savoir que le pays va connaître une période de sécheresse. Une période de sécheresse très, très difficile. Cette période de sécheresse que Élie va annoncer à Akab, c'est aussi cette période que si souvent nous connaissons dans notre vie. Cette période de sécheresse symbolise, symbolise la maladie de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Voilà. C'est la maladie de l'Esprit Saint dans notre vie. Lorsque l'Esprit Saint est malade dans notre vie, nous sommes aussi malades. Sans l'Esprit Saint dans notre vie, nous ne pouvons pas résister. C'est la sécheresse. Lorsque nous sommes loin de la présence de Dieu, nous sommes dans la sécheresse spirituelle. Cette sécheresse physique que Élie va annoncer à Akab symbolise aussi le jugement divin. Cette sécheresse symbolise le jugement de Dieu. Pourquoi le peuple de Dieu va connaître cette sécheresse? C'est à cause de la désobéissance, c'est à cause de l'infidélité. C'est à cause de cette arrogance. Ce peuple que Dieu a choisi, ce peuple tournait le dos à son Dieu. Et Dieu va agir à travers son prophète Élie. Notre Dieu va choisir cette sécheresse pour attirer l'attention de son peuple. Cette sécheresse a pour but d'aider à son peuple de comprendre que hors du Dieu Tout-Puissant, il n'y a pas de vie. C'est lui qui est le rocher. Il est la source d'eau vive. Et ce matin, nous avons besoin de boire cette eau vive que notre Dieu symbolise. Nous avons besoin aussi d'aller annoncer comme Élie la parole du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre. La bonne nouvelle. Ce matin, j'ai envie de vous dire aussi, mes frères et sœurs qui sont là ce matin, vous avez besoin d'accomplir le deuxième point dans votre vie, à savoir d'aller. Vas-y dans le monde pour annoncer la parole. Vas-y, prêtez-vous devant le monde pour annoncer la parole du Seigneur. Il est temps que le ministère, votre ministère public commence. Il est temps ce matin. Mais aussi ce matin, j'ai envie de vous poser cette question. Avant de commencer votre ministère public, est-ce que vous avez déjà accompli le premier point, le premier ministère, à savoir... Va, cache-toi. Vas-y à la rencontre de votre Seigneur. Va créer votre relation personnelle avec votre Dieu. Parce qu'il faut être armé pour aller dans le monde. Si vous n'êtes pas armé de toute la puissance du Seigneur, de la puissance de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas aller annoncer sa parole dans le monde. Mes amis, ce matin, nous avons des faiblesses. Peut-être que nous n'avons pas les mêmes faiblesses. Mais ce matin, sachez-le que notre Dieu est notre force. Le fait que nous avons notre Dieu dans notre vie, il va nous aider à surmonter nos faiblesses. Il va transformer nos faiblesses en force. Il va nous donner le courage qu'il faut pour annoncer sa parole dans ce monde. Vous devriez être présent constamment dans la présence du Seigneur. Nous avons besoin de marcher dans la sanctification. Nous avons besoin de marcher dans l'humilité devant notre Dieu. Nous avons besoin de nous laisser guider par notre Dieu. Parce que lui seul connaît le chemin. Ce matin, Vous et moi, nous avons comme obligation à demander à notre Dieu de nous aider à poser nos pieds dans ses pas. Parce que notre Dieu, il est le vrai guide. Élie va se retrouver dans le torrent de Kérith. Il va se retrouver dans le torrent de Kérith. Ce n'est pas obéissance à l'Éternel. Ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est par l'obéissance à l'Éternel. C'est ce que nous devrions faire dans notre vie. Souvent, les choses paraissent difficiles, mais on doit se poser la question, est-ce ma volonté ou la volonté de Dieu qui prime dans ma vie? C'est vrai, ce n'est pas facile, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons y arriver. Comme Élie ce matin, notre ministère public va commencer. Nous allons annoncer sa parole. Mais aussi, nous allons comprendre, nous allons voir pourquoi Dieu a demandé à Élie d'aller au torrent de Kérith. La première raison, je dirais, c'est pour le protéger contre des réactions qui n'allaient pas manquer de se faire jour. Parce que Élie vient annoncer à Akab qu'il allait avoir une très longue période de sécheresse. Forcément, le roi ne sera pas content. Et Dieu, pour protéger son serviteur, il va lui demander d'aller au torrent de Kérith. Il va se retrouver dans un endroit où il n'y a rien à se nourrir. Mais notre Dieu, il a déjà tout prévu. Il a son plan. Et c'est ce que Dieu a pour vous ce matin. Il a son plan pour moi, il a son plan pour vous. Mais avant tout, nous devons nous laisser guider par lui. Comme Élie était un homme, il avait les mêmes sensations, il avait les mêmes besoins physiques que nous. Mais il avait une grande relation avec son Dieu Tout-Puissant. Dieu a façonné Élie pour son travail. Ce matin, Dieu veut nous façonner pour son travail. Si je suis devant là, c'est pas parce que je suis mieux que vous. Pas du tout. C'est parce que je suis mieux que vous. C'est juste une grâce. Et Dieu aussi, il veut vous faire profiter de cette grâce. Pas forcément pour prêcher, mais aussi pour faire d'autres choses. Peut-être aujourd'hui, je peux annoncer la parole du Seigneur par ce moyen. Peut-être demain, Dieu a un autre plan. Et c'est ce que nous devons demander à notre Dieu ce matin. Nous devons dire à notre Dieu, aide-nous à trouver notre place au milieu de ton peuple. Aide-nous à trouver notre place dans l'Église. Parce que nous sommes tous appelés à servir notre Dieu. Comme Élie, nous avons à affronter les épreuves, les défis qui se dressent devant nous. Élie va se retrouver dans un endroit seul. Seul, je dirais, pour nous les humains. Mais aux yeux du Dieu Tout-Puissant, Élie n'était pas seul. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu avec lui. L'Esprit de Dieu était là comme guide avec Élie. Dieu veut protéger son enfant. Parce que Élie a annoncé une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui est terrible. Imaginez-vous aujourd'hui que, je dirais, quelqu'un vient nous annoncer qu'il n'y aura plus d'eau en France. Il y aura une sécheresse pendant plusieurs années. Quelle serait notre réaction? Ce n'était pas facile. C'était une mauvaise nouvelle pour le roi Akab. Vraiment, il serait furieux, en colère contre Élie. Mais Dieu a son plan. Le plan de Dieu est parfait. Est-ce que vous voulez bénéficier de ce plan? Est-ce que vous faites partie du plan de Dieu ce matin? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le sais, je fais partie du plan de Dieu. 3 années de sécheresse dans un pays qui dépendait de l'appui du ciel. 3 années de sécheresse. Le pays va connaître 3 années de sécheresse. Mes amis, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand les mauvaises nouvelles arrivent, nous devons plier le genou devant notre Dieu dans la prière. Parce que les mauvaises nouvelles souvent nous font cogiter. Les mauvaises nouvelles nous poussent à poser des questions. Mais les questions que nous posons souvent n'auront pas de réponse. Il n'y a que Dieu qui a des réponses à toutes nos questions. C'est pour cela que quand les épreuves arrivent, nous devons nous plier devant notre Dieu. Nous devons nous courber devant lui. Parce que Dieu est l'alpha et l'oméga. Effectivement, j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que les messages qui percutent les consciences, les messages qui bouleversent la vie des hommes, ce sont ceux qui sont nés dans la prière. Élie a reçu ce message de la part de Dieu. Ce n'était pas un message personnel. C'était un message que Dieu l'a confié. Et ce matin, comme Élie, j'ai envie de vous encourager. J'ai envie de vous dire d'aller à la rencontre de votre Dieu, de vous plier devant lui. Allez à sa rencontre dans la prière, dans la supplication. Troisièmement, Élie va aller à la rencontre de la veuve de Sarepta. Cette femme, j'aime pas utiliser ce mot, à savoir cette pauvre. J'aime pas utiliser ce mot. Cette femme qui était vraiment dans un état, je dirais, déplorable, un état compliqué, où il n'avait pas grand-chose pour survivre. Mais Dieu avait un plan pour elle. Dieu va envoyer Élie à la rencontre de cette veuve. Mais avant tout, j'ai envie de vous dire que Élie va à la rencontre de cette veuve dans un pays où Élie n'avait pas le droit d'aller, parce que cette veuve était une païenne. C'était une païenne. À l'époque, c'était une personne impure. Pour les Israélites, c'était une personne impure. Élie devrait aller dans le pays ennemi à la rencontre de la veuve de Sarepta. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la parole de Dieu doit annoncer à toutes les personnes. C'est que si Élie avait refusé d'aller à la rencontre de la veuve de Sarepta, cette femme ne serait pas goûtée à la grâce de Dieu. Mais Élie, en se soumettant à la volonté de Dieu, Élie, en se laissant guider par la grâce de Dieu, a apporté la bonne nouvelle à cette dame, a pu goûter la grâce de Dieu. Et c'est pareil aussi, vous avez reçu la parole de Dieu par le biais d'une personne. Peut-être que cette personne venait de loin, peut-être une personne d'extérieur. Mais Dieu a son plan pour chacun de nous. Dieu avait son plan pour la veuve de Sarepta. Oui, cette dame était vraiment dans un état difficile. Cette dame était une personne très, très fragile. Je dirais que cette personne était aujourd'hui, comme on fait des divisions de classe, je ne dirais pas elle était dans quelle classe, la classe très, très moyenne ou bien la classe, parce que je n'ai pas envie de dire pauvre, j'aime pas ce mot. Personne n'est pauvre. Nous ne sommes pas pauvres. J'aime pas ce mot, moi. Mes amis, le moyen de la providence de Dieu, le moyen de la providence de Dieu est la chose la plus importante que nous pouvons bénéficier dans notre vie. Dieu peut nous toucher par tous les moyens. Il peut nous toucher par tous les moyens. Il peut nous toucher dans tous les endroits. Il peut nous toucher dans notre chambre. Il peut nous toucher au travail. Il peut nous toucher dans le transport en commun. Il peut nous toucher partout. Parce que notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga, le tout-puissant. Et comme Dieu a envoyé son serviteur à la rencontre de la veuve de Sarepta, Élie ne va pas résister. Il va aller. Il va aller. Parce que Élie, pendant son temps dans le désert au torrent de Kérit, il a été nourri par les corbeaux, mais arrivé à un moment, la sécheresse qu'il avait annoncée va arriver. Le fait que la sécheresse est arrivée, et cette sécheresse allait durer 3 ans, Élie devrait quitter le torrent de Kérit. Tout ça, il va le faire par l'obéissance à la parole de Dieu. Il a reçu la parole de Dieu. Dieu lui a demandé d'aller à la rencontre de la veuve de Sarepta. Élie s'en va. Il va à la rencontre de la veuve de Sarepta. Mes amis, le prophète Élie doit partager avec les fidèles cachés les conséquences d'un jugement qu'il est venu prononcer de la part de l'Éternel. Il doit partager les conséquences de ce jugement que le Dieu Tout-Puissant a annoncé. Mais aussi, Dieu va permettre à Élie de verser sa bénédiction de vase en vase. Parce que partout où Élie va passer, il va ramener la bénédiction des dieux. Cette veuve qui va partager tout ce qu'elle a avec Élie va bénéficier de la providence des dieux. Elle va goûter la providence des dieux. C'est ce qui nous arrive fort souvent quand on reçoit un serviteur de Dieu chez nous. Notre Dieu, il est tout puissant. L'Éternel nourrit les corbeaux. Et les corbeaux, à leur tour, nourrissent Élie. Mes amis, Élie va aller à la rencontre de cette veuve qui vit dans une situation difficile. Une situation très, très compliquée. Mais Dieu a son temps pour elle. Dieu va envoyer son serviteur dans sa maison. Et son serviteur va apporter la bénédiction de son Dieu. Et Élie va aller à la rencontre de cette dame. Élie va mettre cette dame à l'épreuve. C'est ce qui nous arrive fort souvent dans notre vie. Dieu nous met à l'épreuve. Élie va mettre cette dame à l'épreuve en lui demandant d'abord de l'eau dans un vase. Il va demander à la dame de l'eau. Et ensuite, il va demander à la dame de quoi se nourrir. Et mes amis, imaginez-vous à la place de cette veuve qui avait juste, je dirais, une poignée de farine, un petit flacon d'huile. Ce qui est terrible, c'est que plus loin, la veuve, elle va dire, elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant les jours, elle eut de quoi manger, elle et sa maison ainsi que lui. Mais plus haut, elle va dire, la dame va dire plus haut, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une couche. Je ramasse deux morceaux de bois, puis je vais rentrer préparer cela pour moi et pour mon fils. Nous mangeons, après quoi nous mourrons. N'est-ce pas terrible? Lorsque nous savons que nous allons prendre le dernier repas, après le dernier repas, nous mourrons. N'est-ce pas terrible? N'est-ce pas terrible? Est-ce que vous avez envie de partager votre dernier repas? Lorsque nous sommes confrontés à la mort, est-ce que nous avons envie de partager toutes les richesses que Dieu nous a données? Cette dame savait qu'elle allait mourir, mais par l'obéissance, elle va accepter de préparer le premier gâteau à Élie. Elle ne savait pas qui était Élie. Elle ne savait pas qui était Élie. Mais Dieu va toucher son cœur. Elle va accepter de partager avec Élie le peu qu'elle avait. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire souvent dans notre vie. Annoncer la parole aux autres, c'est facile. Mais aussi, les autres, ils sont dans le besoin. On doit apprendre à les soutenir. On doit apprendre à les aider. Vous et moi, c'est notre devoir. Ce n'est pas facile, mais on peut le faire. Cette dame va accepter de partager son dernier repas à Élie. Elle va partager son dernier pain. Elle va la partager. Et Élie va l'annoncer une bonne nouvelle aussi. Élie va annoncer que, après avoir partagé son dernier pain, que sa cruche de farine ne sera jamais vide. Dieu va remplir sa cruche de farine. Son flacon d'huile ne sera jamais vide. Dieu va remplir ce flacon. C'est ce qui nous arrive souvent dans notre vie. Dieu nous aide à marcher de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. C'est vrai, lorsque les épreuves arrivent, c'est dur. Mais nous ne devons pas oublier les bons moments que nous avons passés avec Dieu. Il n'y a pas que les épreuves dans la vie, il y a aussi les bons moments. Souvent, Dieu nous fait passer par les épreuves pour nous transformer, pour nous préparer à sa gloire. Et ce matin, vous et moi, vous avez les mêmes obligations. Nous avons les mêmes obligations. de marcher selon la volonté de notre Dieu, d'affronter les épreuves avec la ferme assurance que nous ne sommes pas seuls. Notre Dieu, il est là. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il veut nous aider, il veut nous transformer. Comme Élie, notre Dieu, il va nous nourrir. Il va nous nourrir de toutes sortes de nourritures. Notre Dieu, il peut commander au corbeau de nous amener à manger. Notre Dieu, il peut commander à la veuve de Sarepta de nous nourrir. Notre Dieu, il peut demander à la personne que vous pensez qui est la plus démunie de ce monde de vous donner un coup de main. Mais ce matin, nous devons lui faire confiance. Nous devons lui faire confiance par l'entremise de Élie. Le Dieu Tout-Puissant va rentrer chez la dame, chez cette veuve. Cette dame qui était, je dirais, infréquentable au vu de la société. Pas au vu des dieux. Elle était infréquentable au vu de la société parce qu'elle était, je dirais, très, très démunie. Mais Dieu avait un plan pour cette dame. Il aimait comme elle était. Dieu va bénir cette dame par l'entremise de son serviteur Élie. Mes amis, quelles que soient nos ressources, nous devons pratiquer l'hospitalité. Quelles que soient nos capacités, nous devons pratiquer la bienveillance. Quels que soient nos moyens, nous devons apprendre à aider les autres. C'est vrai, nous allons partir, nous allons tous mourir. Nous n'allons rien apporter avec nous. C'est vrai, on n'aime pas parler de la mort, mais la mort fait partie de notre vie. La mort fait partie de notre vie. Et ce matin, à travers l'exemple de cette veuve qui va partager à Élie son dernier repas, Dieu nous invite à partager aussi notre dernier repas. Notre dernier repas qui symbolise le repas de la survie, Dieu nous demande de le partager. À travers ce repas aussi, Dieu nous demande de partager sa parole. Lorsqu'on invite un ami à la maison pour manger avec nous, lorsqu'on invite un inconnu à la maison pour manger avec nous, on peut essayer de faufiler une petite parole à la gloire de notre Dieu. Mes amis, notre hospitalité doit être à la portée de tous. Oui, cette veuve va écouter Élie. Elle va faire comme Élie lui a demandé. Mais chez cette dame, il n'y aura plus de faim. Il y aura toujours de quoi à manger. Notre Dieu, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour vivre. Mais il va arriver quelque chose de surprenant dans la vie de cette dame. Après toutes ces bénédictions, il y aura une grande épreuve. Cette dame va frapper par une grande épreuve, à savoir son fils unique. Il va frapper par une maladie violente. Il va être mort. C'est ça, les épreuves. Quand les épreuves arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne ou on continue? Mes amis, on ne doit pas baisser les bras devant les épreuves. Et c'est là que cette dame va prendre conscience. Parce qu'il y a un début de... Comment je dirais? Il y a un début de conversion chez cette dame. Le fait qu'elle va accepter de partager son pain avec Élie, ça, c'est le début. Mais quand elle va perdre son fils, malgré la déception, malgré elle va remettre ça sur le dos d'Élie, mais en même temps, elle va aller vers Élie. Elle va aller vers Élie pour lui demander, est-ce que c'est à cause de toi que la colère de Dieu est venue chez moi? Mais Dieu, dans son amour, va donner la sagesse à Élie, parce que Dieu avait choisi Élie. Élie va présenter l'enfant devant son Dieu, et le Dieu Tout-Puissant va ressusciter cet enfant. Et après avoir ressuscité cette dame, il y a quelque chose qui va passer dans sa vie. Cette dame, elle a dit que je reconnais maintenant que vous êtes un homme de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Là, sa foi a grandi en le Seigneur. Il y avait le début de la conversion, mais maintenant, cette femme, elle commence à transformer parce qu'elle a reconnu que le Dieu d'Élie est le Dieu Tout-Puissant. Mes amis, c'est ce que nous devons faire ce matin. Nous devons avoir cette foi, cette ferme assurance que le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant, le seul vrai Dieu. Le Dieu qui peut nous transformer. Le Dieu qui peut nous aider à marcher de victoire en victoire. Ce Dieu, il est à portée de nous tous ce matin. Nous devons lui accepter. Nous devons accepter sa proposition. Ce matin, vous et moi, nous avons les mêmes besoins. Ce matin, vous et moi, nous avons les mêmes obligations. Ce matin, vous et moi, nous sommes tous des ambassadeurs de Dieu. Nous avons pour mission d'aller annoncer sa parole. Comme Élie, on doit l'accepter. Dieu nous appelle. Souvent, Dieu nous appelle au milieu de la richesse. Souvent, Dieu nous appelle au milieu des épreuves. Mais Dieu a toujours un plan parfait pour nous. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, comme il est écrit dans 2 Jean 1, 8, prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Amen. Amen. Que le Seigneur vous aide à servir. Que le Seigneur vous aide à marcher dans sa volonté. C'est vrai, c'est pas facile, c'est dur pour vous et moi. Mais notre Dieu, il veut nous aider. Il veut nous tenir la main. Et que Dieu